Alors, pour terminer notre forum, nous retrouvons quelqu'un qui, discrètement, nous accompagne depuis longtemps. En 2011, déjà, nous avions eu le plaisir de l'accueillir. Le sujet était alors l'intérêt de l'enfant. Je me souviens qu'en faisant appel à lui, nous souhaitions qu'il nous aide à décaler notre regard, à ouvrir davantage notre réflexion. C'est encore ce que nous attendons de son intervention. Vous connaissez sans doute Dany Robert Dufour, certaines de ses publications. Alors, je ne prétends pas tout maîtriser, mais quand même, l'art de réduire les têtes, on achève bien les hommes, le divin marché, la cité perverse, il était une fois le dernier homme, la situation désespérée du présent me remplit d'espoir, nous dit-il. Alors, vous me pardonnerez, j'en oublie, j'en passe, mais j'ai plaisir à vous citer celle que je crois connaître un peu. Dany Robert Dufour nous propose une réflexion qui ne saurait refermer les débats, la recherche, bien au contraire. Éthique et intimité. L'effraction que nous sommes parfois amenés à effectuer, le sentiment d'effraction que peuvent ressentir celles et ceux que nous accompagnons sur mandat du juge, ces effractions sont-elles inévitables par rapport à la nécessaire protection de l'enfant? Comment le philosophe peut-il nous aider à reconnaître l'autre dans son inaliénable dignité, parce que si c'est un homme, nous aurait dit Primo Levi. Merci d'avoir.
Merci beaucoup, merci. Ce n'est pas du tout un remerciement formel que je suis en train de faire maintenant. C'est un remerciement intéressé au bon sens du terme, au meilleur sens du terme, tout simplement parce que je me suis senti convoqué par les questions très pertinentes que, cher Michel, tu poses dans l'argument qui cadre donc cette rencontre, ce forum. Comme je ne peux pas prendre toutes ces questions, je vais en tirer quelques-unes et je me consacrerai surtout à celle-ci. Je te cite. Comment cultiver l'intime dans une société qui le donne constamment en spectacle, au point de faire de son exposition un argument de valorisation marchande de l'individu? Voilà qui me semble appeler quelques réflexions philosophiques. Alors, j'ai intitulé mon exposé « L'intime et l'extime aujourd'hui ». En donnant ce titre à cet exposé, je voulais d'emblée prendre mes distances avec une conception courante de l'intime qui le présenterait comme une instance strictement intérieure, un fort intérieur en quelque sorte, un fort que vous pouvez écrire F-O-R, le fort intérieur, donc ce tribunal intime de la conscience, ou même fort F-O-R-T, comme dans forteresse ou fortin, un lieu fait pour résister aux assauts de l'extérieur, un peu comme le château fort médiéval est fait pour résister aux assauts. Je vais donc commencer en faisant remarquer que depuis longtemps, la question de l'intime a été pensée, je dis depuis longtemps, vous allez voir, par ceux qui avaient charge d'âme, charge éducative, dans sa relation à une extériorité. Par exemple, en théologie, et c'est vous dire que cette conception remonte à quelque temps déjà lointain, on appelait extime une part qui vient de l'extérieur et qui entre à l'intérieur des sujets. Eh bien, qu'est-ce qui, de temps en temps donc, ou de tout temps, entre donc à l'intérieur des sujets, s'immisce à l'intérieur des sujets? Eh bien, ce sont ce qu'on pourrait appeler des commandements venus de l'extérieur, des injonctions. L'extérieur pouvant désigner un passé, la tradition, qui s'impose donc au sujet et qui lui intime de faire ceci et de ne pas faire cela. Si on remontait un peu dans le temps, on tomberait sur saint Augustin, 4e siècle de notre ère, un des 33 pères de l'Église, dont il faut que vous sachiez qu'il était, on pourrait dire, algérien, puisqu'il est né à Annaba.
Soukaras.
Il était évêque.
Soukaras,
Souk-Arras, donc comme Arras ici. Et il était évêque d'Hippone.
Tout à fait, Souk-Arras.
Voilà, exactement. Merci.
C'est un berbère.
Exactement. C'est un berbère, voilà. Donc le père de. C'est quand même intéressant de savoir que le père, un des pères fondateurs de l'Église catholique, est un berbère. Eh bien, saint Augustin disait dans ses confessions, magnifique texte des confessions, ceci. Je te cherchais partout dans le monde et tu étais en moi. Et il appelle cette instance extérieure qui est en lui le maître intérieur. Le maître intérieur. Le maître intérieur, il vient donc de l'extérieur. Alors, l'extérieur, ça peut être aussi une autorité non pas du passé, de la tradition, mais une autorité actuelle qui, elle aussi, intime au sujet ce qu'il doit faire et ne pas faire. Vous l'avez entendu, j'ai deux fois employé le verbe intimer, intimer au sujet, pour bien montrer que l'intime, pour une grande part, c'est ce qui reçoit ces intimations de l'extérieur. Alors, autrefois, quand il arrivait dans le monde, ce que la grande philosophe, qui a beaucoup travaillé sur les questions éducatives, entre autres, Hannah Arendt, ce qu'elle appelait donc des nouveaux venus par naissance, par le simple renouvellement générationnel, eh bien ceux-ci recevaient dès leur plus jeune âge des commandements, ceux qu'on appelle les 10 commandements, le décalogue ou les 10 paroles, au sens donc de paroles supérieures qui étaient dites, proférées, à destination de ces sujets, de ces nouveaux venus, répétés, inlassablement répétés, pour, disait-on, les former, pour les éduquer en fonction d'un certain nombre de préceptes partagés donc par la communauté. C'est donc dire que les sujets arrivaient dans le monde, baignés par des grands récits qui s'adressaient à chacun pour que des préceptes soient entendus. Ça veut dire que, en fait, les individus naissent deux fois. Ils naissent une première fois pour venir à la vie biologique, mais ils naissent une seconde fois pour venir à la vie sociale, à la vie culturelle. Et ils viennent à cette vie quand ils ont intégré, donc, un certain nombre de préceptes de leur environnement. Quand ils les ont entendus. Entendus au sens de « oui », l'ouïe. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce que c'est le grand écrivain Pascal Quignard qui nous a rappelé dans un livre fameux, avec un titre qui est une antiphrase en fait, La haine de la musique. Personne n'aime plus la musique que Pascal Quignard. Donc il a écrit ce livre en nous expliquant que ouïr, c'est écouter au sens de obéir. En latin, les deux formes sont liées. On dit « audir » pour « ouïr », « audir » pour « obéir ». C'est-à-dire que l'audition, qui se dit « audiencia », est une obéissance, qui se dit « audiencia ». Ça s'entend encore parfaitement en français courant, puisque les parents emploient volontiers le verbe « écouter » au sens de « obéir ». Il n'écoute rien, ça veut dire « il n'obéit pas ». Pourtant, on croirait que l'homme est fait pour ça, je veux dire anatomiquement, pour écouter et obéir, puisque, comme le dit encore Pascal Quignard, je le cite, « les oreilles n'ont pas de paupières ». Je répète cette proposition. Les oreilles n'ont pas de paupières. Ça veut dire que si vous ne voulez pas voir quelque chose, ben vous baissez les paupières et l'affaire est réglée. Mais si vous ne voulez pas entendre quelque chose, c'est beaucoup plus difficile parce que vous n'avez pas de paupières sur les oreilles. C'est pas prévu. Ça veut dire que le son, l'extérieur, entre tout seul, s'immisce pour intimer au sujet. Eh bien, l'extime, c'est donc ça. C'est de l'extérieur qui entre à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là que Lacan, qui s'est souvent présenté, en plaisantant à moitié, comme un grand théologien, a repris ce terme d'extime. Il l'a repris de la théologie, c'est dans le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, pour désigner cet extérieur logé au-dedans du sujet, quelque chose d'intime donc, mais qui vient du dehors, et qu'on appelle cette extime. Si je parlais tout à l'heure de la notion de maître intérieur chez saint Augustin, eh bien, vous voyez qu'elle est tout à fait en mettre en relation avec la notion d'extime chez Lacan. C'est l'autre grand A, l'autre qui vient en moi et qui préside à mon assomption subjective, à ma subjectivation. Eh bien, cet autre qui est en moi, c'est bien évidemment quelque chose comme le surmoi. Eh bien, s'il faut un surmoi, c'est qu'il faut quelque chose, une instance, qui s'oppose à ce qui jaillit de moi venant de très profond, sans que je sache véritablement toujours pourquoi. Parce que en moi, ça pousse, ça me pousse, le « ça » me pousse. Pousser, ça se dit « pulere » en latin, et c'est ça qui a donné la pulsion. La pulsion, c'est ce qui vous pousse vers un certain nombre d'objets, d'autres personnes qui peuvent être d'autres personnes. Pourquoi je suis, par exemple, attiré par tel type de femme, ou d'ailleurs par tel type d'homme, pourquoi, je ne sais pas, mais je suis poussé vers. Donc il y a des choses qui poussent. Et on peut donc dire, en somme, que l'autre qui est en moi, c'est ce qui met une sorte de frein à la pulsion, qui est aussi en moi. Et ça, on le voit bien quand on demande à des adolescents qui ont commis un acte sans trop savoir pourquoi, « Mais pourquoi as-tu fait cela ?» La réponse est souvent « Je ne sais pas, c'était plus fort que moi. » Eh bien, c'est d'ailleurs pour cela, parce que c'est plus fort que soi ce qui pousse vers ceci ou cela, qu'il faut une autre instance qui mette un frein à la pulsion. Pourquoi ? Eh bien, parce que la pulsion est insatiable. Comme je suis philosophe et que je me souviens de ce que j'ai dit en 2011 à Poitiers, dont certains d'entre vous peut-être se souviennent s'ils étaient là, je ne peux résister à vous rappeler un texte ancien, le Gorgias de Platon, dans une discussion entre Socrate et Calliclès. Calliclès, donc, c'est celui qui est mu par une pulsion insatiable. Et à un moment donné, il se dispute, parce que Calliclès cherche une métaphore pour expliquer pourquoi il est toujours poussé vers ceci ou cela de façon insatiable. Et Socrate lui dit, mais parce que ton tonneau, il y a au fond de toi un tonneau, et ce tonneau est percé. Ce tonneau est percé, et donc tu cherches à remplir le tonneau, tu cherches à houiller le tonneau. Houiller, c'est remplir jusqu'à l'œil, et tu n'y arriveras jamais. Le tonneau est percé. Et donc, cette instance, force, donc j'ai dit taureau, mais parce que peut-être il y a une force, une puissance là-dedans, à quoi le sujet ne peut pas résister, il y a une instance à l'intérieur du sujet qui donc dit sans cesse encore, encore, encore. Et donc, s'il y a une instance qui dit encore, il faut une autre instance qui dise assez, assez. Sinon, la première instance bouffe tout, dévore. Et dans ce texte, Socrate emploie une métaphore qui me semble tout à fait intéressante. Il dit à Calliclès, alors, dans ce cas-là, si tu veux toujours et toujours plus, et si tu dois remplir toujours et toujours plus ton tonneau, tu te comportes comme cet oiseau qui s'appelle le pluvier. Le pluvier, c'est un oiseau échassier, comme le héron, si vous voulez, qui a une caractéristique tout à fait extraordinaire, c'est qu'il mange et qu'il défèque en même temps. Il mange et il défèque en même temps. Pas dire qu'il mange ce qu'il défèque, mais quand il doit tout manger, il faudra bien qu'il continue de manger. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, puisque nous avalons la nature complètement, nous la détruisons, et nous sommes en train de consommer les déjections que nous y avons jetées. Alors, donc voyez, l'intime, c'est ça le théâtre de l'intime. Théâtre de l'intime entre cette instance qui dit encore, encore et encore, et l'autre qui dit assez et qui nous vient de l'extérieur, cette extime qui nous vient de l'extérieur. Donc le théâtre de l'intime, c'est un conflit. Un conflit entre un intérieur très profond que je ne maîtrise pas et un extérieur, un autre, entré en moi. Et lorsque je consens à obéir à l'autre, celui qui me dit assez, ce n'est jamais de gaieté de cœur, parce que cela entraîne de l'insatisfaction. J'en voulais encore. Et donc ce conflit suppose une délibération. Et c'est vraiment là où on commence véritablement à poser la question de l'intime. C'est dans le lieu d'une délibération nécessaire qui doit être installée chez le sujet. Et c'est là où les sujets qui sont sujets à cet encore et assujettis à cet assez ont besoin d'aide pour apprendre à délibérer. Pour apprendre à quoi ? Ben pour apprendre à savoir ce qu'ils veulent au juste et ce qu'ils ne disent pas. Donc, ça c'était autrefois, cela entraînait, je dirais, de l'insatisfaction. Pourquoi autrefois ? Eh bien parce que je crois que nous sommes passés d'une instance interdictrice ou répressive, celle qui disait assez, à une instance incitative. Nous vivons à cet égard un grand retournement anthropologique dans l'histoire humaine qui a véritablement à voir avec la société marchande. Autrefois, donc, on écoutait l'autre, grand A, au sens où j'ai défini écouter comme obéissance. Aujourd'hui, je dirais que c'est l'autre, je ne dirais pas qui nous écoute, mais qui nous entend, au sens à la fois d'entendre et d'entendement. L'autre, aujourd'hui, nous entend. Il y a un autre, maintenant, aujourd'hui, dans sa nouvelle forme, qui prétend nous comprendre mieux que nous-mêmes. Je vais prendre un exemple absolument contemporain. Pensez à ce qu'on appelle aujourd'hui les enceintes connectées, dont on prévoit une vente exponentielle, un peu comme les téléphones portables qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans, et qui équipent maintenant aujourd'hui près de 4 milliards de personnes dans le monde, qui ne peuvent plus vivre sans téléphone portable. Eh bien, vous avez chez vous des enceintes connectées. Et pour vous vendre ces enceintes connectées, on a pris un exemple plaisant. Par exemple, on vous dit « Ah, mais vous rentrez chez vous et vous voulez faire des crêpes pour faire plaisir à votre famille, à vos enfants. » Donc vous dites à l'enceinte connectée « Recette des crêpes ». C'est entendu, parce que l'autre vous entend. Ça part dans les nuages, là-bas, comme dans le ciel autrefois, et là-bas, dans la Silicon Valley, dans les data centers, ça cogite et ça vous revient dans la seconde et ça vous fournit 5 recettes de crêpes. N'est-ce pas le meilleur des mondes ? Vous demandez ce que vous voulez, vous pouvez poser toutes les questions. Il y a désormais une intelligence artificielle qui peut répondre à tout. Et cette intelligence artificielle suppléera aux limites de votre, de notre intelligence naturelle. Cette intelligence artificielle contient des algorithmes qui capteront toute votre vie dans ce qu'elle a de plus intime. Elle saura lire vos pulsions pour les exaucer. Il ne s'agit donc plus d'un autre, comme l'ancien autre, qui réprime vos désirs. Il s'agit d'un autre qui est là maintenant pour exaucer vos pulsions. Votre smartphone, dont je parlais tout à l'heure, il est en train de devenir votre assistant personnel, votre autre moi. Vous ne savez pas où vous êtes, vous tapez la direction et hop, vous avez la direction qui vous est indiquée, vous suivez les flèches. Vous avez oublié le nom d'un acteur, vous tapez le nom du film, hop, immédiatement avec vos copains, vous dites c'est un tel. Vous demandez n'importe quoi, il est là pour vous répondre. Votre téléphone, votre smartphone, smart, intelligent, est connecté aussi avec votre montre qui prend votre tension, ce smartphone, c'est aussi lire vos emails. Et déjà, aujourd'hui, Google vous indique, vous n'avez pas répondu à ce mail, et il y a même des applications qui disent, voulez-vous que je réponde pour vous ? Vous avez oublié l'anniversaire de votre mère. Voulez-vous que je lui envoie un message ? Vous avez rendez-vous avec le médecin, c'est important pour votre santé, je m'occupe de vous. Donc, voilà, ce smartphone, cette montre connectée, je ne dis pas que ça répond à vos désirs, non, c'est mieux, ça les anticipe. Ça sait mieux que vous ce que vous voulez. Quoi que ce soit, ça répondra, quel qu'il soit, à tous vos désirs. Pensez à une application comme Tinder, par exemple, que les jeunes, peut-être aussi les moins jeunes, utilisent beaucoup. Voilà, je suis un soir dans un bistrot, un peu seul comme ça, et j'aimerais bien parler à cette fille ou à ce garçon. Eh bien, Tinder est là pour me dire, elle a rentré des mêmes caractéristiques que celles que vous recherchez. Donc, ça match. Donc, vous allez la voir en disant, je sais que ce qui vous intéresse, c'est ceci ou cela. Alors, évidemment, quand on a tout cet environnement, des montres connectées, des smartphones, des enceintes connectées, il suffit que ça ne soit plus là, à côté de vous, pour que vous ressentiez donc un sentiment de manque quand vous vous retrouvez privé de cet autre moi qui sait mieux que vous ce que vous voulez. Eh bien, quand on ressent un manque, ça s'appelle une addiction. Et donc, nous vivons de plus en plus dans un environnement social qui génère d'une façon massive des addictions en tout genre. Il y a par exemple un dénommé Larry Rosen, qui est prof au MIT, Massachusetts Institute of Technology, donc un grand centre de recherche aux États-Unis, et qui a analysé simplement quantitativement, pas qualitativement, mais quantitativement, l'impact des technologies sur nos comportements. Et il a publié un livre qui n'est pas traduit en français à ma connaissance, et qui s'appelle The Distracted Mind, le cerveau distrait. Le cerveau distrait. Et il a trouvé que les étudiants qu'il avait pris dans son échantillon déverrouillaient leur téléphone 50 fois par jour pour un total de 262 minutes, soit plus de 4 heures en tout et plus de 5 minutes pour chacune de leurs sessions. Le tout passé sur les réseaux sociaux, sur leur messagerie, avec donc YouTube, Facebook, Instagram, etc., etc. Et il remarquait, il comptait aussi, les participants de cette étude avaient touché en moyenne 2617 fois leur smartphone en une seule journée. 2617 fois. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse comme ça à nous ? Cette sollicitation de ce nouveau grand autre qui veut exaucer tous nos désirs, eh bien, parce que il pratique ce qu'on appelle la captation de notre attention. Pour analyser tout ce que nous écrivons, tout ce que nous disons, tout ce que nous consultons, de façon à nous donner ce que nous voulons, à nous vendre ce que nous sommes supposés vouloir. C'est une captation de masse. Vous le repérez ça très très bien, et moi en particulier, puisque j'ai déjà un certain âge. Et quand j'étais dans le métro parisien il y a 30 ans, 20 ans, et même jusqu'à il y a 10 ans, quand j'entrais dans une rame de métro, une personne sur deux ou une personne sur trois avait un livre ou un journal et lisait. Et donc l'attention, c'était l'attention de celui qui était pris dans ce qu'il voulait savoir, concevoir, l'histoire, l'analyse. Maintenant, c'est autre chose, c'est votre attention est captée par justement ça, par le smartphone qui équipe maintenant, je ne sais pas, une personne sur deux quand vous entrez dans le métro, une rame de métro parisien, qui font quoi ? Ben, ils consultent leur messagerie, ils répondent, et quand ils ne répondent pas, eh bien, ils jouent à des jeux imbéciles de préférence. Alors, évidemment, tout cet environnement technologique dans lequel nous sommes, mais nous ne sommes qu'au début, ça suppose bien sûr, pour revenir à la question qui nous intéresse, une exhibition de l'intime, une exhibition de votre fond pulsionnel, que vous montrez donc à cet autre, qui est là pour vous entendre, vous voir, vous écouter. Ça a commencé il y a déjà un certain temps, il y a 20 ans, avec les émissions du type Big Brothers. Vous savez, ces émissions de télé-réalité où un groupe de gens enfermés pendant une ou deux semaines sont filmés en continu et dont les images sont retransmises à tout le monde par la télévision. La première, c'était Love Story, si mes souvenirs sont exacts. Et tout ça se poursuit donc avec le fait que vous diffusez désormais vos exploits, je dirais tous vos exploits en incivilité, vos exploits sexuels, vos exploits en beuverie, vos exploits même en charité, pourquoi pas, ou de tout ce que vous voulez, et donc que vous devez ensuite les mettre sur les réseaux sociaux pour les rendre visibles à tout le monde. Rendre visibles quoi ? Des choses finalement très personnelles, très intimes. C'est pourquoi ça me fait dire que cette instance dont je parlais tout à l'heure, L'intime, aujourd'hui, depuis 10, 15, 20 ans, s'est transformé. Ce n'est plus le même que cette extime qui venait de l'extérieur et qui me disait assez. Cette extime, donc, il était, je l'ai dit, de l'extérieur intériorisé pour me dire calme-toi, ça suffit, tu as assez. Eh bien, cette extime, il devient maintenant de l'intérieur extériorisé, avec donc cette transformation dont on n'a pas encore remarqué toutes les conséquences sur les sujets. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la forme même du surmoi dont je parlais tout à l'heure qui s'est inversée. Avant, donc, le surmoi, c'était cette petite voix intérieure qui s'adressait à vous, à la deuxième personne, et qui vous disait « T'aurais pas dû faire ça, et ça, ne le fais pas. » Ça s'adressait à vous, à la deuxième personne. C'était un surmoi répressif. Aujourd'hui, on a affaire à un surmoi incitatif. Le surmoi incitatif, c'est celui qui s'adresse toujours à vous, à la deuxième personne, mais qui dit ben, « Fais-le, vas-y, fonce, tu dois le faire, do it !» La publicité de Nike, il y a 10 ans. Et t'as pas de limite, demande ce que tu veux. Et si tu ne le fais pas, t'es un imbécile. C'est ça le message que l'on reçoit maintenant de l'autre. C'est donc le passage d'un surmoi globalement freudien, répressif, à un surmoi lacanien, parce que Lacan avait déjà repéré cette forme qui s'incarne dans un impératif de jouissance. Et il n'y a rien de mieux que le marché pour faire valoir cet impératif de jouissance. Le marché qui s'est immiscé partout, qui vous entend, qui vous écoute, qui vous espionne, parce qu'il prétend répondre à tout ce que vous demandez. Le marché, qu'est-ce d'autre que cette instance qui vous offre des objets manufacturés, qui vous offre des services marchands, qui vous offre des fantasmes sur mesure produits par les industries culturelles, pour combler toutes vos appétences, quelles qu'elles soient. Ce que je veux dire, c'est que votre intimité pulsionnelle, ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de Calliclès, votre intimité pulsionnelle, elle est devenue visible et lisible par le marché. Autrement dit, le marché, c'est l'exploitation industrielle de vos pulsions. Vous êtes devenus transparents au marché. Nous sommes devenus transparents au marché. Alors, ce que je veux dire, c'est que voilà. Autrefois, il y avait les parents et leurs enfants. Maintenant, ce sont des transparents. Nous sommes transparents. Invisibles, non, nous ne sommes pas invisibles. Nous sommes très visibles, très lisibles, mais transparents parce qu'on voit au travers de nous dans ce que nous voulons intimement, d'une façon dans nos pulsions. Pensez aussi à l'application Snapchat dont les adolescents raffolent et qui leur permet donc de filmer et de photographier des moments, quels qu'ils soient, de leur petite histoire pour les faire défiler sur leur story et les adresser à leurs semblables. Eh bien, ceux-là aussi se rendent transparents, transparents aux autres. Mais il y a plein d'exemples. Je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, quand vous regardez dans une boutique, par exemple, des habits qui vous plaisent, qui sont portés par un mannequin, c'est vous qui regardez le mannequin. Mais le mannequin aussi, il vous regarde. Le mannequin vous regarde. Et c'est pas une métaphore. Littéralement, il vous regarde. Pourquoi? Parce qu'on met maintenant dans les yeux du mannequin des caméras qui analysent donc le visage de celui qui regarde et qui sait analyser les différentes physionomies pourrait déduire un affect d'indifférence, de joie, de désir, de dégoût. Et donc, pendant ce temps-là, votre téléphone va borner, et donc on sait que vous avez souri en regardant tel habit, et donc vous aurez bientôt dans votre boîte aux lettres, votre boîte mail, ou sur votre ordinateur, ou dans votre smartphone, la proposition alléchante de ce qui vous intéresse. Donc vous êtes vu par des mannequins. Alors, comme toujours, donc ceci peut occasionner une jouissance exhibitionniste, au sens où vous montrez. Ça répond aux pulsions scopiques du voir et être vu. On me voit, je suis vu. C'est intéressant dans une société où souvent on est un peu anonyme. Je suis vu, il y a au moins un autre, le grand autre me voit. Ça me rappelle le titre d'un film, Dieu seul me voit. Maintenant le marché me voit. Le marché me voit d'une façon permanente. Mais évidemment, cette jouissance exhibitionniste peut facilement se retourner contre le sujet. Parce que dans la multiplicité des visionnements possibles, des exhibitions possibles, où il se donnera à voir, en le sachant ou ne le sachant pas, il se trouvera bien quelqu'un ou quelques-uns animés des plus mauvaises intentions du monde pour exploiter à son profit ces informations sur vous que vous donnez gracieusement. Et là, le choc peut être extrêmement violent. Parce que l'ado qui s'est soumis à l'impératif de visibilité maximale, alors là, il le paye. Pas seulement il paye cher, pas seulement l'ado d'ailleurs, aussi bien l'adulte. Vous connaissez peut-être, il y a un an ou deux, cette histoire d'une femme italienne qui, pour faire plaisir à son petit ami, a accepté de se laisser filmer en compagnie de plusieurs hommes. Je laisse vos imaginations fécondes imaginer de quoi il s'agit. Et donc, le petit ami a fait une sex tape, comme on dit, qui a été mise sur les sites porno par cet homme dès qu'elle s'est séparée de lui. C'est ça la visibilité, c'est que vous pouvez le payer très cher. Elle l'a payé de sa vie, elle s'est suicidée. Alors, le trauma est très fréquent dans ce monde maintenant, ce trauma, donc de la jouissance exhibitionniste qui se retourne contre le sujet. Ça peut être donc l'occasion de lui apprendre à se construire une intimité qui n'est qu'à lui, une intimité délibérative. Est-ce que je veux cela, oui ou non ? Donc qui n'est qu'à lui parce qu'il peut ou non décider de partager avec quelqu'un de son choix, mais pas une intimité ouverte à tous les vents. Donc recréer cette instance délibérative qui existait autrefois entre l'encore de la pulsion et l'AC, donc du grand récit, du commandement, qui existait pour qu'on délibère entre les deux. Donc une instance réflexive qui ne peut que rendre le sujet autonome. Donc je pense que le travail sur l'intime aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait aider le jeune, l'adolescent, à reconstituer cette instance délibérative qui, pour l'essentiel, a disparu, pour décider entre ce qu'il veut donc et ce qu'il ne veut pas. Cela revient donc à faire à nouveau entrer des maximes, non plus des commandements religieux, mais des maximes. Quelles règles je vais choisir pour mener ma vie, qui permettent donc de s'orienter dans la vie sociale. Quand ces maximes manquent, il n'est pas rare d'observer, vous le savez bien sûr, puisque on ne sait que faire, un basculement radical pour obvier à ce manque d'instance délibérative, un basculement radical vers, disons, un religieux radical. Eh bien, on comprend. C'est parfait. On comprend parce que aujourd'hui, vu qu'il manque cette instance qui permet de juger et de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, la souffrance a pu être telle que cette instance peut prendre tout le pouvoir. Cette instance religieuse qui fixe un cadre absolu au sujet. La radicalisation, ça existe. Et il n'est pas rare d'observer que ceux qui ont été sujets à une pulsionnalité débridée, drogue, vol, incivilité, etc., se soumettent alors à cet autre absolu qui prend un empire total. Et ils deviennent alors des automates de cet autre absolu. Eh bien, l'idéal, ce serait donc qu'il n'y ait ni pulsionnalité totale, ni soumission totale à un autre absolu. Mais justement qu'il y ait cette instance délibérative à construire. Alors, si vous vous demandez si la mise en œuvre d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial pourrait provoquer une effraction de l'intimité, eh bien, mon devoir est de vous dire que la principale effraction, elle vient d'ailleurs. Et je suis sûr que toute aide bien menée que vous pourrez apporter aux membres de la famille pour leur apprendre à gérer ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, ne pourra que les inciter à prendre véritablement soin de leur intimité. Voilà, merci.